Interview BO par Benoît Bazerico.
Nous sommes avec Maxence Dussert. Maxence, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez donc de recevoir le prix Cinésic, lauréat donc pour la troisième année de ce prix que Cinésic remet dans le cadre du festival Musique et Cinéma à Marseille. C'était avant à Aubagne. Ça s'est donc déroulé du 4 au 9 avril dernier. Et vous avez donc reçu le prix Cinésic pour trois courts-métrages. Le premier court-métrage, « Nous n'irons plus en haut » de Simon Eloco. Ensuite, « Domard » de Alcibiade Cohen. Et enfin, « Cicatrice » de Anna Rosselin. Trois courts-métrages, donc, puisque vous aviez donc trois courts-métrages dans la compétition des courts-métrages français du festival. Alors, avant de s'intéresser à ces courts-métrages, intéressons-nous à votre parcours. Je crois que vous êtes violoniste, guitariste, bassiste. Vous avez pratiqué la musique au sein de différents groupes en musique actuelle. Vous avez aussi une carte technique. Vous avez notamment fait la FEMIS en département son. Voilà ce processus. Comment il vous a amené à faire de la musique de film? J'imagine que c'est progressivement.
Alors effectivement, j'ai fait dans ma jeunesse du violon alto précisément au conservatoire. Et initialement, je voulais devenir ingénieur du son plutôt en production musicale dite de l'industrie du disque. Donc j'ai essayé de faire des études dans ce sens en passant le concours de Lumière que je n'ai pas eu. Par contre, j'ai tenté le concours de la FEMIS plutôt du coup pour faire du son au cinéma. J'ai un peu bifurqué en cours de route. Et quand je suis rentré dans cette école, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient du cinéma, des réalisateurs, des réalisatrices, des monteurs, des monteuses, des gens qui faisaient de l'image, des gens qui faisaient du son. Et moi, donc, j'étais en son, donc je faisais du son, et à force de faire du son, on parlait de plus en plus de musique avec les collaborateurs que je fréquentais à l'école. Et j'ai commencé, en fait, par presque loisir, entre guillemets, faire de la musique pour des petits courts-métrages étudiants des gens de ma promo. Et le premier d'entre eux, notamment, ça a été William Labourie, avec qui j'ai travaillé dès la première année de la FEMIS, juste parce qu'on s'entendait bien, qui savait que je faisais de la musique par ailleurs dans le privé, si je puis dire. Et puis, voilà, on a fait un premier film comme ça, on en a fait deux, puis trois. J'ai fait son film de fin d'études qui s'appelle Otaru. Et c'est un petit peu ça qui m'a dit que c'était possible et que c'était quelque chose qui pouvait potentiellement m'intéresser de faire de la musique au service des autres, finalement. Parce que je faisais effectivement, comme vous l'avez dit, de la musique pour moi, soit seul, soit en groupe. Et voilà, mais j'y croyais pas trop d'un point de vue professionnel. Quand je suis sorti de l'école, j'ai tout de suite fait beaucoup de montachon. J'ai été assistant de Nicolas Becker, qui faisait du sound design et un peu de musique de film aussi. Donc on a pu ensemble co-signer une musique originale d'un premier long métrage qui était le film Joueur, réalisé par Marie Monge. Et en parallèle de ça, je continuais à faire toujours du montachon, et un jour je me suis dit qu'en fait j'étais vraiment trop bien à faire de la musique de film et qu'il fallait que je continue là-dedans, parce que c'est ce qui m'épanouissait le plus, c'est ce qui me faisait le plus marrer. Et donc j'ai un peu insisté là-dessus, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes au bon moment qui m'ont fait confiance. Évidemment sur du court-métrage au début, et assez vite sur des premiers longs-métrages. C'est pas un destin de carrière que je m'étais fixé depuis l'enfance, même si je pratique la musique depuis l'enfance. Mais voilà, petit à petit, en bifurquant, et j'en suis arrivé là, et j'en suis très heureux aujourd'hui, donc je continue comme ça.
Et est-ce que vous dissociez votre parcours dans le son et votre parcours aujourd'hui dans la musique? Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui exclusivement compositeur, ou alors vous associez encore les deux démarches?
Alors aujourd'hui, je suis exclusivement compositeur, et le dernier film que j'ai fait en tant que, pas vraiment monteur son, mais monteur musique, c'était Annette de Léos Carax, qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps de ma vie professionnelle. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que j'ai terminé ce film-là, que je me suis consacré uniquement à la musique. Et depuis, je n'accepte plus, en fait, de propositions qu'on me fait pour faire du montage son ou du mixage. Après, dans ma pratique de la composition, je fais des musiques dans des registres très différents. Je crois savoir que par moment, des producteurs ou des réalisateurs m'appellent parce qu'ils savent justement que je viens aussi du monde du son, et que ça, je pense qu'à un certain endroit, ça se sent dans ma musique, et que c'est ce qui peut attirer certaines personnes. Voilà, comme n'importe quel compositeur, j'ose espérer que j'ai un peu un style ou un univers musical et sonore qui, je pense, existe et est là parce que aussi je viens du montage son et du mixage et de la du traitement de la matière sonore, d'une certaine manière.
Et vous avez commencé aussi en tant qu'interprète de différents instruments. Est-ce qu'aujourd'hui, votre approche de la composition passe moins par l'écriture d'une partition que par le jeu d'un instrument ? Quelle est votre première étape pour la composition, justement ?
Je crois que la première étape, c'est le film, en fait. C'est de regarder le film, de lire le scénario. C'est l'histoire, c'est l'émotion, en fait. C'est vraiment ça qui donne évidemment la naissance de toute la démarche après qui va suivre. Et en fonction de tout ça, aussi de manière très pragmatique, aussi, en fonction du timing qu'on a, en fonction du temps de recherche ou de réflexion, bah, j'aborde les choses de différentes manières. Et c'est assez ambivalent. Ça peut être soit effectivement tout de suite avec... la recherche d'un son particulier autour d'un instrument, qui soit un instrument acoustique ou un instrument électronique. Je travaille avec beaucoup de synthé, mais aussi avec des tas de choses qui vibrent dans la vraie vie, dans l'air, quoi. Ou alors, tout de suite, il faut trouver un thème ou une idée mélodique très forte, et dans ce cas-là, je me mets au clavier, et puis souvent c'est au piano, mais ça peut être aujourd'hui avec les banques de sons, avec n'importe quel type d'instrument, pour commencer à trouver... l'embryon de ce que sera la musique, et après petit à petit on trouve un chemin comme ça. Mais j'ai pas de route prédéterminée. Il y a des choses que je préfère faire que d'autres, mais avant tout faut que ça ait du sens par rapport au film et par rapport à globalement la bande originale qu'on va vouloir trouver pour le film, de quelle manière on va l'aborder, et ça dépend vraiment du film, et du coup c'est différent à chaque fois.
Avant d'aborder vos trois courts-métrages pour le prix Cinésique, revenons sur votre parcours, sur quelques longs-métrages. Alors votre premier long-métrage, il me semble, c'est Les Météorites, un premier film de Romain Laguna, donc premier film pour le réalisateur, premier film pour le compositeur. Vous étiez un peu comme ça dans une sorte de découverte commune. Comment s'est passée cette première rencontre pour vous ?
Et très bien, ça a été effectivement un peu un saut dans le vide, parce que ça a été la première fois que j'avais cette responsabilité-là, même si c'était un premier long-métrage pour le réalisateur, mais c'était dans les premiers longs-métrages de la société de production qui nous ont fait confiance aussi, donc c'était que des gens de la même génération, on était tous à un stade d'expérimentation, et puis dans l'équipe technique c'était un peu la même chose, les acteurs étaient tous des acteurs non professionnels, donc c'était quand même un univers très bienveillant par rapport à ça, par rapport un peu à ce... manque d'expérience, et en même temps il y avait du coup une forme de pas de naïveté, parce que c'est un petit peu péjoratif, mais de dire ça, mais de se dire bon on sait pas exactement comment on fait, mais on va le faire parce qu'on va trouver notre façon de faire. Et en fait aujourd'hui, quand je reviens un peu en arrière, j'ai pas une immense expérience, mais j'ai quand même fait quelques autres films depuis. A priori j'aurais abordé la chose à peu près de la même manière. C'est surtout le réalisateur qui m'a beaucoup impliqué avant le tournage du film, pendant le tournage, évidemment beaucoup pendant le montage. Et c'était finalement très confortable. Aujourd'hui encore, ça m'arrive de travailler sur des films à la toute fin du montage, donc c'est très particulier. Donc en l'occurrence, c'était des conditions en dehors de financières qui étaient plutôt confortables, parce que c'était encore une fois un tout petit film.
Et dans Les Météorites, il y a donc au centre du récit une jeune femme, Nina, interprétée par Zéa Duprez. Et j'ai l'impression que votre musique, c'est un peu sa mélodie intérieure. Est-ce que vous êtes théoriquement, vous réfléchissez à ce type de quel rôle la musique va épouser ? Et en l'occurrence, très souvent, j'ai l'impression dans les films que vous travaillez, c'est une musique, la musique du personnage.
C'est vrai que c'est quand même un geste assez fort de vouloir... là je parle plutôt pour les metteurs en scène, hein, de vouloir faire en sorte que la musique incarne un personnage, ou incarne en tout cas une partie du personnage. Dans le cas des Météorites par exemple, la musique originale prend en charge un aspect très particulier du personnage et pas l'intégralité du personnage, ce qui permettait de donner une épaisseur un peu plus à la lecture du film et du personnage. Moi j'ai pas tendance à trop théoriser en amont, en tout cas si ce n'est sur lecture du scénario, en me disant cette séquence-là appelle tel type de musique, et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se répéter ou se retrouver ou créer du sens, parce que il y a un fil conducteur à la lecture du scénario qui paraît de prime abord assez évident. Parfois ça marche, et parfois ça marche pas du tout, et on change complètement notre fusil d'épaule, et puis parfois je donne des musiques, et puis le monteur ou la monteuse les cale complètement autrement, et du coup ça raconte encore autre chose, du coup on retravaille.
Est-ce que vous avez aussi fait la musique pour le drame agricole de Naël Marandin, La Terre des Hommes ? Au cœur du récit, là encore, une jeune femme, Constance, incarnée par Diane Roussel, et également j'ai l'impression que la musique épouse son trouble intérieur, c'est une rare femme dans son milieu qui subit une certaine violence.
Alors pour ce film, effectivement, il y avait quelque chose de très fort par rapport à ce personnage principal qui, comme vous l'avez dit, et incarne quelque chose de très particulier par rapport au milieu dans lequel elle évolue, par rapport à ce qui va lui arriver aussi. Et là, le but du jeu sur cette musique, c'était de pouvoir justement raconter un peu quelque chose d'autre que uniquement ce qu'on voit. C'est toujours pareil, c'est des questions de off et des questions de quel niveau de lecture on va pouvoir donner. Et là, en l'occurrence, effectivement, une fois encore, ça passait évidemment par le personnage, mais ça aurait pu être une musique qui incarnerait un décor ou une temporalité ou quelque chose d'autre. Il se trouve que dans le cinéma français, même international, évidemment que les choses passent beaucoup par les personnages et par les premiers rôles qui sont souvent très forts et qu'on a envie d'accompagner. Mais par exemple, dans le film de Naël, ça s'est écrit, ça s'est fait comme ça, mais ça n'a, ça ne se, ça, on ne l'a jamais formulé comme ça avec le réalisateur, en amont en tout cas. Après, on s'est rendu compte qu'effectivement, à chaque moment musical, c'était des choses qui étaient liées au personnage de Diane Roussel. Mais en tout cas, on se l'est pas dit de manière consciente.
C'est plus intuitif.
Oui, exactement. Les films nous guident dans notre écriture et guident effectivement notre instinct. Les choses sont tellement liées, sont tellement doivent tellement concorder que de toute façon, si l'écriture du film est suffisamment claire et limpide pour nous amener dans un certain sens, la musique va suivre ce sens également.
Donc là, on vient de citer deux longs métrages notables de votre parcours récent, Les Météorites et La Terre des Hommes. Alors, vous l'avez dit, vous êtes aussi au générique de Annette, non pas pour la musique, puisqu'on sait évidemment que la musique est signée des Sparks pour ce film musical de Léo Scarrax, hein, qu'à Cinésic qu'on a beaucoup défendu. Et donc, votre fonction était monteur musique, hein, c'est bien cela. Est-ce que vous travailliez avec les Sparks, avec Léo Scarrax concrètement? Comment ça se passait?
Avec tout le monde à la fois. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance sur ce film parce qu'en fait, initialement, j'étais censé être présent uniquement dans la phase de tournage pour des questions très techniques d'une part, qui étaient la gestion des playbacks dans les oreillettes des comédiens, puisque c'est tourné intégralement en son direct. Donc, pas de diffusion de musique sur des enceintes pendant le tournage, donc tout le monde sous oreillette. Et sur un film de cette complexité-là, l'ingénieur du son avait besoin de quelqu'un qui s'occupait uniquement de cette partie-là, donc en l'occurrence c'était mon rôle. Et par ailleurs, sur le tournage, de faire tout un suivi du montage des musiques, qui préexistait évidemment au film, mais qu'on a quand même beaucoup retouché, retravaillé, redécoupé pendant le tournage même. Donc là, avec Léos, parfois avec les Sparks quand on avait la chance de les avoir sur le plateau, mais c'était quand même assez rare. Et parfois avec Clément Ducol, qui était l'arrangeur, orchestrateur du film, pour tout simplement adapter. De temps en temps, c'était des histoires de longueur, de rythme, de tempo, parfois de structure, parfois de tonalité même, en fonction du casting, des extras qu'on avait un peu au jour le jour. Donc parfois, en termes de tessiture, ça marchait pas, donc fallait gagner un ton ou en perdre un. Voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, ce travail qui a été fait au tournage, fallait évidemment le compléter et le suivre pendant toute la post-prod, puisque Léo se travaille au quotidien avec sa monteuse Nelly Quétier, et donc il monte le film, donc il coupe dans les musiques, parce que la partition des dialogues du film, c'est la partition musicale, sauf que il coupe parfois un peu de travers, donc faut le faire ensemble. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui ait cette double casquette, à la fois monteur son, qui puisse connaître les processus de travail du montage et du montage son, qui est quand même très spécifique, et à la fois évidemment musicien pour qu'il y ait quelqu'un à Paris dans la salle de montage. Enfin, moi, ma salle était à côté de la salle de montage du film, au quotidien. À faire l'intermédiaire entre Léos ou les Sparks qui eux étaient à Los Angeles, ou Clément Ducol parfois, et toute l'équipe des copistes après pour les enregistrements. Donc c'était un gros travail qui finalement, à un moment donné, s'est retrouvé très central par rapport à la fabrication, vraiment les mains dans le cambouis, quoi. Toujours pour ma part au stade de maquette, puisque après tout ça s'est finalisé avec les enregistrements définitifs. Et j'ai suivi la fin du travail jusqu'au mixage des musiques qu'on a fait en Belgique, où là encore, Léo s'était très présent, mais un petit peu moins. Et du coup, comme j'avais une très bonne connaissance de toutes les musiques et tout le travail qui avait été fait avant, j'ai pu être aux côtés du mixeur musique pour, non pas pour guider des choix artistiques, parce que c'est Léo, c'est les Sparks qui les faisaient, mais en tout cas pour être garant qu'au moment où Léo arrive dans l'auditorium, tout soit en place tel qu'on l'avait décidé avant pendant le montage, et qu'après ce soit juste des décisions de son et de mise en scène qui évidemment lui appartenaient.
Et donc on comprend dans vos propos l'importance d'un monteur dédié à la musique, pour pas qu'il y ait des absurdités de coupure, par exemple, par rapport à l'intégrité des morceaux. Un métier, monteur musique, qui est très fréquent aux États-Unis et rare en France. Est-ce que vous déplorez vous-même, en tant que compositeur désormais, hein, vous avez dit que maintenant, depuis Annette, vous n'êtes plus que compositeur, mais est-ce que vous déplorez cette absence d'un monteur dédié à la musique ?
Alors, en tant que compositeur, pas complètement, parce que je suis mon propre monteur musique, puisque j'ai aussi cette formation et cette casquette-là. Donc, c'est très pratique. Du coup, j'en ai rarement le besoin en tant que compositeur. Ce qui ne veut pas dire que les films n'en ont pas besoin. Je me retrouve quand même dans beaucoup de situations où je me dis que le travail que je finis par aboutir, c'est du travail de montage musique, et que si c'était quelque chose qu'on arrivait à développer en France, les compositeurs travailleraient, et moi le premier, probablement différemment, à se concentrer par ailleurs sur d'autres choses, et surtout à échanger plus facilement avec les metteurs en scène. Parce que par exemple, sur Annette, le travail du monteur, enfin, du coup, mon travail au montage musique était aussi beaucoup de faire l'interface entre le réalisateur et les compositeurs, pouvoir faire des rectifs un peu en temps réel, pouvoir anticiper toutes les demandes et être garant de toutes les versions, qui sont des choses très techniques, mais hyper importantes en fait en musique de film, parce que d'une version à l'autre, il peut y avoir des choses très différentes, et d'un seul coup, on peut perdre la confiance d'un réalisateur, ou au contraire, la gagner, si les choses sont carrées et suivies et tout. Et parfois, les compositeurs n'ont pas le temps ou pas l'énergie de faire ça, et surtout pourraient passer leur temps à faire autre chose, c'est-à-dire vraiment de la musique.
Et être compositeur de musique de film, ce n'est pas que ces longs métrages que l'on vient de citer, c'est aussi parfois donc le court métrage avec un format plus réduit. Alors avant de parler précisément de ces trois courts métrages, vous abordez les longs comme les courts. Quel enjeu particulier quand c'est plus court justement ?
Bah, pour moi, exactement les mêmes, si ce n'est le temps passé. Alors ça dépend, il y a des longs métrages sur lesquels je passe moins de temps que sur certains courts métrages. Ça dépend toujours des films évidemment, mais pour moi l'approche est la même et se fait dans le même sens. Vraiment la nuance, c'est souvent évidemment l'économie, quoique aujourd'hui on a quand même la chance d'être souvent aidé quand même pour les courts-métrages et de pouvoir quand même faire des choses, parfois même aller enregistrer, ce qui n'est pas toujours le cas par exemple en long-métrage où parfois il faut tout faire un peu soi-même, mais sinon non, en termes d'écriture et de manière de faire, pour moi c'est la même chose.
Alors, court-métrage premier des trois du prix Cinésique, qui était en compétition Festival Musique et Cinéma de Marseille en avril, Domar de Alcibiade Cohen. Alors, je crois qu'il est tourné en Argentine. C'est avec une jeune femme qui participe à des qualifications de rodéo. Et votre musique électronique, vous allez me dire un peu de quoi il s'agit au niveau de la sonorité. Moi, ça m'a fait penser un peu à des cris de baleine.
Ah, c'est marrant. En fait, c'est une musique qui est très minimaliste. Je suis arrivé assez tard sur le film, pour le coup, il était déjà monté. Ils avaient déjà essayé de monter avec des musiques préexistantes, mais ils ne trouvaient pas vraiment le registre. Et en fait, j'ai fait trois propositions à Alcibiade sur la même séquence. Donc trois propositions très différentes, et qui pour moi racontaient toutes les trois quelque chose de pertinent par rapport au film. Et ce qui a été retenu, c'est évidemment ce qui existe aujourd'hui dans le film. Et après, j'ai déroulé autour de ce thème-là et surtout de cette sonorité-là. En fait, c'est très minimal. C'est un synthé, une percu et des trémolos de cordes. Mais c'est vraiment les trois seuls sons. Pour rentrer dans les détails, le synthé en question, c'est un Buchla. Donc, c'est un synthé assez particulier qui fait des sons effectivement assez étranges. Mais c'est marrant que vous parliez de baleine parce que ça fait des sons quand même effectivement assez organiques pour un synthétiseur. Voilà, donc j'ai travaillé autour de ça, et puis après, ça s'est déroulé assez facilement avec Alcibiade, pour le coup.
La plupart des scènes est de nuit. En quoi, justement, la lumière et l'obscurité peut influencer votre musique ? Est-ce que vous partez de l'image, justement ?
Ah bah, beaucoup, oui. Alors, là, vous parlez de lumière, mais dans l'image, il y a tout un tas de choses, évidemment, puisqu'on est au cinéma, donc c'est quand même beaucoup l'image qui travaille, le jour, la nuit, des plans larges, des plans serrés, beaucoup de personnages, pas beaucoup de personnages, toutes ces choses-là influent évidemment sur l'atmosphère que j'aime pas trop ce mot d'atmosphère pour qualifier une musique, mais le mood ou le ton que pourrait donner la musique. Mais ça, c'est un peu la même approche que j'avais justement en tant que monteur son, parce que quand on fait du montage son, on monte évidemment pas les mêmes sons en fonction de ce qu'on voit à l'image, parce qu'à un moment donné, il faut coller tout simplement, ou pas d'ailleurs, on peut justement à mon avis décider de sortir complètement de ce registre-là. En l'occurrence, dans le film d'Alcibiade, musicalement, c'est un film visuellement assez épuré quand même, assez stylisé, effectivement pas mal de nuit, même si la grosse séquence, enfin les deux séquences qui entourent un peu le film, la toute première et celle de fin sont évidemment de jour.
De rodéo.
Hein. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui infuse de manière plus ou moins consciente, mais en fait, je pourrais pas dire là c'est un film de nuit donc faut faire une musique comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, je vois l'image et j'écoute la musique que j'essaye de faire et je me dis ça colle ou ça colle pas. En fait, c'est une question que je me pose quand j'arrive pas à trouver de solution. Quand ça colle pas, je me dis pourquoi ça fonctionne pas. Parfois, ça peut être parce que c'est de nuit ou parce que c'est de jour, mais ça peut être pour mille autres raisons, évidemment. Mais ça reste quand même à un moment toujours un petit peu instinctif.
Et j'ai l'impression aussi que, alors surtout dans le court-métrage, hein, avec des courtes durées, que la musique a moins une fonction narrative qu'une fonction climatique. Elle amène dans ce film d'Omar une certaine étrangeté. Elle entoure cette jeune femme comme ça, d'une dimension même presque fantastique. Cette fonction climatique, vous parliez d'atmosphère, vous aimez pas ce mot, moi je dirais ouais, plus climatique, justement, on est presque comme bercé quelque part.
D'Omar, une des premières conversations qu'on a eues avec Alcibiade, le réalisateur, c'est que le film a ses forces, a évidemment ses limites, comme tout film, et que la musique à un endroit a pu se poser pour valoriser certaines choses dans le film et mettre en avant certains aspects qui étaient filmés, notamment ce caractère un peu parfois onirique. Il y a une séquence de cauchemar dans le film qui est finalement assez centrale, même si elle est très courte, et toute la musique devait insuffler un peu cette tonalité-là dans d'autres séquences qui, a priori, n'appelaient pas du tout cette atmosphère-là, mais qui était quand même important et nécessaire pour des enjeux de mise en scène, tout simplement.
Et il y a un motif principal qu'on entend au début, au générique, et puis à deux ou trois reprises dans le film. Un motif donc qui revient, qui est à la fois voilà, l'idée musicale du film, et puis évolue avec de plus en plus de cordes, comme pour tracer comme ça le parcours du personnage. Donc il y a malgré tout quand même ce petit fil narratif, très ténu finalement à travers ce motif. Et donc il y a la couleur et l'idée d'un thème quelque part.
Oui, effectivement, alors cette terminologie du thème, moi, c'est quelque chose dont j'entends parler absolument tout le temps, en permanence, tous les jours. Tout le monde me dit, alors est-ce qu'il y a un thème, est-ce qu'il n'y a pas de thème? En fait, un thème, enfin, moi, ma définition aujourd'hui du thème, c'est que c'est un thème, ça peut être 2 notes, ça peut être 50 notes, ça peut être tout ce qu'on veut. Je parlerai plus, comme vous venez de le dire, du motif. Et le motif, là, en l'occurrence, dans Domar, c'est quelques notes, mais c'est surtout un son qu'on reconnaît. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, ma conception du thème, ça peut être juste un son qui revient, sans forcément des notes, sans forcément une phrase musicale, avec des formes de montée, de descente, de questions de réponse, enfin, tout un tas de choses qu'on a théorisées et qu'on sait évidemment faire. Mais donc c'est effectivement ce truc de motif. de s'en servir pour le faire évoluer, pour le retrouver, pour déterminer des points d'ancrage dans la narration et se dire, ah tiens, on a déjà entendu ça la dernière fois, on a entendu à ce moment-là, mais là ça a un peu évolué, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, tout ça c'est des outils dont on sert évidemment pour créer de la narration, pour créer du sens. Après, appelons ça un thème, appelons ça un motif, un gimmick, ce qu'on veut. Il se passe des choses chez cette femme qui en interne tourbillonne, la tourmente, voilà, il y a une espèce de tempête comme ça qu'il faut essayer de retranscrire, et en même temps, faut pas non plus que ce soit trop évident. Donc voilà, il y avait cette espèce de curseur comme ça qui était un peu ténu.
Et parfois, les compositeurs sont guidés plus par un refus que par une intention. C'est-à-dire quelque chose que le réalisateur ne veut absolument pas. Alors, très souvent, des réalisateurs disent « moi, je veux pas de thème, justement », alors que finalement, il y en a par le motif, mais ça convient à quelqu'un qui n'aime pas les thèmes. Et là, est-ce qu'il avait un refus particulier, un truc qu'il ne voulait pas dans ce film? Peut-être une musique folklorique, hispanisante pour le rodéo, j'imagine?
Oui, probablement, ça, je pense qu'il me l'aurait jeté à la gueule, mais... comme ça, je m'en souviens plus, mais effectivement, ce que vous dites est très juste. Très souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, par contre, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est un très bon point de départ, mais c'est ce que je demande d'ailleurs toujours à un réalisateur qui, par définition, enfin, sauf quelques rares cas, ne sont pas forcément musiciens ou très sensibles même à la musique de film. Ils sentent qu'ils en ont besoin, mais ils ne savent pas exactement dire pourquoi. Et quand même, bien souvent, ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas. Donc ça, c'est... Mais là, en l'occurrence, je ne saurais pas vous dire précisément.
Autre court-métrage du prix Cinésique, Nous n'irons plus en haut, de Simon Eloco. Alors, on est l'été qui se termine dans une paisible maison de campagne bretonne. Et nous sommes avec deux frères de 8 et 12 ans. Ils sont seuls, livrés à eux-mêmes dans cette maison. On entend beaucoup les sons de la nature, hein, les arbres, l'eau. Donc, il y a un vrai travail entre la musique et les sons. Et là, la question du placement est aussi très importante, parce que la musique, c'est aussi santé, hein, pour laisser ses sons au premier plan, et on a aussi une dureté, je trouve, et donc cette musique ne joue pas une musique d'enfant, elle joue une musique de dureté, justement, peut-être pour convoquer un passage à l'âge adulte. Je sais pas quelles ont été, voilà, théoriquement, les choses que vous aviez pensées en amont, mais en tout cas, dans le résultat, j'ai ressenti cette dureté, ce passage à l'âge adulte et ce travail sur les sons.
Bah alors, c'est exactement ça. Déjà, dans un premier temps, pour parler du son, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, de manière générale, c'est au silence, en fait. Déjà, quand je faisais du montage son et du mixage, en fait, le son n'a de sens que parce qu'il l'entoure. Un silence est forcément relatif, et ce sont des rapports de dynamique qu'on travaille, entre des sons très forts et des sons très faibles. Et c'est ça qui crée des choses et qui crée des événements. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, mon approche de musique de film, c'est aussi ça. C'est dans quoi la musique va arriver et comment elle va ressortir. Et que ce soit d'un point de vue narratif ou d'un point de vue purement plastique, en fait. Donc, par rapport au reste des sons. En l'occurrence, là, sur le film, on a commencé à travailler pendant le montage du film, et puis on a continué à affiner les choses pendant le montage son. Donc, tout ça s'est fait un peu ensemble et en même temps de manière commune. Après, pour parler de la musique en elle-même, il y a évidemment quelque chose qui doit être lié à l'enfance, mais il ne s'agit pas pour autant de sortir un marimba et un toy piano pour parler de l'enfance, parce qu'effectivement, le film est beaucoup plus complexe que ça. Et comme vous le dites, parle d'une forme de passage à l'âge adulte, alors qu'il se fait dans un contexte évidemment très dramatique. Et c'est cette dureté qu'on a essayé de trouver, plus ou moins théoriquement, mais qui finalement marche pas trop mal avec l'utilisation de l'harmonium, qui peut avoir un son assez doux, mais qui a quand même des attaques très, très raides, quoi. Voilà, c'est pas un instrument où on enveloppe les choses comme une corde frottée, par exemple, ou tout ça. Et qui est toujours derrière une espèce de tension, un truc toujours un petit peu ambivalent. Par exemple, la première musique du film, la musique qui ouvre le film, commence par des espèces de nappes comme ça, un petit peu dissonantes, avec des ondes qui s'accordent, qui se désaccordent. Et petit à petit, finalement, il y a un rythme qui arrive et qui nous emballe. Comme si, en fait, il y avait toujours quelque chose un peu en sous-texte, en sous-marin, d'une musique un peu lead et un peu entraînante. Bah, quelque chose de plus grave et de plus sombre, en fait, d'une certaine manière.
Thank you.
Et la musique me paraît plus hybride que celle de Domar, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une unité de couleurs, mais en même temps, on passe d'une texture terrifiante à des percussions lorsqu'ils sont sur une tombe, à des musiques plus joyeuses et rythmiques aussi lorsqu'ils courent dans les champs, une musique plus hybride. Et alors, comment on trouve l'unité malgré cette hétérogénéité ?
Même si y a des musiques qui donnent des tonalités très différentes, c'est quand même très souvent les mêmes sons, les mêmes synthés qui reviennent. Même si on les reconnaît pas forcément, on serait pas capable de les pointer du doigt en disant « Ah tiens, ça... » Par exemple, comme dans Domar, où le son de synthé, c'est toujours le même sur toutes les musiques du film. Là, dans le film de Simon, c'est un petit peu la même chose, mais c'est un peu plus masqué quand ça se répète et quand ça s'auto-référence d'une certaine manière. Pareil avec l'harmonium, on commence le début du film avec de l'harmonium et on finit avec de l'harmonium, mais pas joué de la même manière, évidemment, et puis pas écrit de la même manière, donc ça raconte des choses différentes à chaque fois. Et puis, je crois que le film appelle ça quand même aussi, appelle des moments qui partent un peu dans tous les sens, parce que, en fait, ces deux jeunes adolescents vivent des choses très différentes et au même titre que quand on est adolescent, on est dans des émotions très ambivalentes entre le passage du rire aux larmes ou du drame à des événements extrêmement joyeux. Je pense qu'il y a un peu tout ça dans ce film-là.
Vous parliez de cet harmonium, le choix de cet instrument qui, alors moi j'hésitais entre l'orgue, l'harmonium, il y a cette dimension un peu même presque sacrée à travers cette musique. Il y a un motif un peu répétitif qui moi m'a rappelé un peu Philip Glass, cette musique répétitive américaine qui était aussi la référence d'Hans Zimmer pour Interstellar et qui utilisait d'ailleurs l'orgue également, donc moi ça m'a fait un peu penser, est-ce que c'était une référence consciente ?
Alors moi c'était plutôt l'orgue de Hans Zimmer effectivement qui m'a beaucoup intéressé, même si en l'occurrence ça n'a aucun lien avec le film de Simon parce qu'on parle de choses très différentes, mais par contre effectivement cette espèce de motif et juste par question esthétique, c'était quelque chose qui l'attirait, cet harmonium, parce qu'il y avait, comme je vous disais, ce truc un petit peu enfantin et en même temps un peu rugueux comme son d'une certaine manière. Il m'a envoyé beaucoup de musique, je lui en envoyais d'autres pour parler rythme, pour parler tessiture, pour parler texture de son, pour parler aussi un petit peu émotion dans la musique. Et puis, parfois, il me pointait des choses très précises dans des morceaux de 4 minutes. Il me pointait 4 secondes, il me disait « Ah tiens, là, j'aime bien ce moment-là. » Et à moi d'essayer de comprendre pourquoi il aimait bien ce moment-là. Parfois, c'était parce que le son était intéressant, parfois, c'était parce que la cadence était intéressante. Encore une fois, en fonction de ce qu'il y avait avant et après, ça, voilà. Et puis petit à petit on a déterminé comme ça un peu des lignes et puis après je lui ai proposé des premières maquettes et qu'on a beaucoup abouti ensemble. Il est beaucoup venu en studio pour beaucoup pour ajuster des choses rythmiques, justement des calages, des trucs assez précis et voilà, mais on a fait beaucoup d'allers-retours et surtout il était très très présent avec moi, vraiment à mes côtés dans la salle quoi. Voilà.
Très bien. Et enfin, troisième court-métrage du prix Cinésique, sur lequel on parlera peut-être moins longtemps, puisque la musique est moins présente. Il s'agit de Cicatrices, de Anna Roslin. Nous voyons des corps, l'image de corps avec leurs cicatrices, et des témoignages en voix off. Et à travers ces témoignages de jeunes femmes ou moins jeunes avec leurs cicatrices, ça va d'ailleurs d'une enfant à une femme plus âgée, nous confrontons à des corps heurtés, des corps violentés, toutes sortes d'ailleurs de violences, presque même parfois des violences souhaitées, hein, quand il s'agit de chirurgie esthétique. Et la musique n'est qu'au début, je crois, hein, qu'un motif répétitif en ouverture, donc il y a la dureté des images, et la musique, justement, nous décolle de cela, hein, on entre plus en douceur que l'on en sort.
Oui, effectivement, mais on n'en sort pas, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, l'aspect minimaliste de cette musique, et la très peu de quantité de musique qu'il y a dans ce film, a du sens, parce que à mon avis, les images sont tellement fortes d'elles-mêmes et j'allais dire stylisées, mais c'est juste la manière de filmer. Voilà, elle filme très près des corps, sans jamais montrer les visages. C'est des espèces de tableaux presque comme ça, avec toujours les témoignages en voix off. En fait, tout ça est très maîtrisé, très précis. Et rajouter une musique par-dessus, en fait, n'avait pas de sens parce que, tout simplement, la narration n'en avait pas l'utilité. Les choses sont déjà telles qu'elles sont, très frontales, et en même temps, très, très subtile et très discrète. C'est jamais voyeuriste, c'est toujours très bienveillant comme point de vue, comme regard. Donc surtout, fallait pas en rajouter, quoi. C'était vraiment surtout ça, le truc. Mais par contre, comme vous le dites, fallait quand même trouver un point d'entrée, comme si on nous annonçait, voilà, on rentre dans le film, il va se passer quelque chose, soyez attentifs. Et la musique, en fait, a uniquement cette fonction-là. Par ailleurs, il y a ce truc du motif et de la polyrythmie qui se phase, qui se déphase, qui, en tout cas, à mon sens, et c'était le but recherché par Anna, qui crée un truc au début, ce rythme comme ça, qui est répétitif, qui est assez droit, qui petit à petit se casse un peu la gueule. Et qui en fait après retombe un peu sur ses pattes. Bon voilà, ça incarne aussi un petit peu la manière dont ces personnages se sont déconstruits, se sont reconstruits autour de leur corps un peu brisé, pour des raisons très diverses, comme vous l'avez évoqué. Voilà, donc il fallait pas que ce soit plus que ça, quoi. Juste deux rythmes, deux motifs qui se chevauchent. En fait, c'est très simple, hein. C'est deux arpèges qui n'ont pas exactement le même tempo, donc au bout d'un moment, voilà, je suis pas le premier à le faire, hein, mais... Je pense même qu'à un moment donné, elle s'est dit qu'il probablement il fallait pas du tout de musique dans le film, et on en a parlé de manière assez claire. Elle m'a montré son film, parce que du coup il était terminé au montage. Elle m'a demandé mon avis, je lui ai dit bah si musique il y a, c'est, je pense que pour l'ouverture. Elle était assez d'accord avec ça, et puis on a tenté des choses pour voir s'il pouvait y avoir des choses convaincantes. Et on a trouvé cette musique, et on était tous les deux très contents de ce que ça pouvait raconter à la hauteur du film.
Parfois, les réalisateurs ou réalisatrices ont peur de déranger un compositeur au stade où il y a un doute et où il y a même possibilité de ne pas avoir de musique. Et donc, il y a aussi la crainte de devoir rejeter son compositeur ou sa musique. Et vous dites que non, faut pas avoir peur, que le compositeur peut être là pour la réflexion, finalement.
Ah bah, faut surtout pas avoir peur, parce que je comprends cette peur, hein, c'est normal. Mais à un moment donné, on est là pour essayer des choses. Je veux dire, ça arrive aux acteurs d'avoir des séquences qui sont coupées. Et c'est... Parfois c'est de la faute des acteurs, mais en fait c'est surtout de la faute du film, parce que parfois le film a besoin à un moment donné d'une coupe, parce que bah, c'est comme ça, et on est quand même avant tout au service du film, faut pas aller plus loin que ça. Donc moi je dis toujours, enfin toujours, pas toujours, mais souvent aux réalisateurs avec qui je travaille, dans un premier temps, souvent je fournis beaucoup de musique, et souvent plus que ce qu'il y a finalement dans le film. Et faut élaguer autour de ça, évidemment, il y a toujours du surplus. Mais comme au tournage, on tourne toujours beaucoup plus de choses. On tourne plusieurs prises, c'est pas pour rien. Si on fait 5, 10, 15 prises, c'est parce qu'on veut avoir du choix, et à un moment donné, on en tourne des plus rapides, des plus courtes, des plus longues, des plus. Enfin voilà. Pour que, après, au montage, en plus, bah, le montage avant tout, c'est une paire de ciseaux. Hein, donc, bah, pour moi, la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on essaye des choses, on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir essayé, d'avoir cherché surtout, parce que parfois, ça permet de débloquer aussi d'autres choses dans l'écriture au montage du film. Très souvent, il y a des séquences entières qui sont bouleversées par l'arrivée de la musique ou par l'absence de musique, justement. Ou du coup, on élague, ou au contraire, on a envie d'avoir plus de temps. Parfois même, il y a des retakes qui sont faits à cause de ça. Enfin bon, tout un tas de choses. Mais pour moi, c'est le même processus, quoi. Donc faut pas avoir peur... et puis faut pas avoir peur de dire, ah non, ça c'est une fausse route complète, ça fait 3 mois qu'on bosse sur un thème, mais en fait c'est pas le bon du tout, faut changer complètement. Faisons-le. Mm-hmm.
Très bien, Maxence Dusserre. Alors je vais reciter les 3 courts-métrages du prix Cinésique. Cicatrice de Anna Rosslin, Nous n'irons plus en haut de Simon Eloco, et enfin Domar de Alcibiade Cohen. Merci Maxence Dusserre, on va continuer donc à suivre votre travail, et donc à très bientôt, au revoir.
Merci, à bientôt.
Cinésique Radio.